This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Qui vous permettra de rester dans le confort de votre salon et de soutenir la scène émergente du Québec.
Les catégories:
composition rock, composition métal, cover band et hommage. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Une présentation des productions Sébastien Gérard et de la brasserie Malco.
Des bières qui dépassent les plus...
96.9.
La façon lévisienne de refaire le monde.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff
Morin, courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion.
À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Retour à la bulle immobilière. On est avec des gars de ImmoStar, François Pelchat puis Kevin Lachance. Ils nous partagent aujourd'hui leur expérience, leur vision du développement, les différents projets. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les centres commerciaux, dans les espaces commerciaux aussi, des bureaux industriels, récemment du multilogement aussi. En gros, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu du marché, de tout ça, parce que vous avez l'occasion, la possibilité d'avoir touché à toutes ces différents types d'immeubles, ces différents types de clientèle. Puis j'aimerais ça savoir comment que ça se passe au niveau des centres commerciaux, comment qu'on analyse des centres commerciaux, comment qu'on est capable de retirer une rentabilité de ces projets-là.
Le marché n'a jamais été aussi bon que ça depuis plusieurs années. On voit des grues partout, de la construction dans tous les grands pôles du Québec, du Canada. Donc je vous dirais que c'est vraiment des années exceptionnelles qu'on est en train de vivre actuellement. Les produits là, de multirésidentiel, d'industriel, sont les produits de l'heure qui sont extrêmement recherchés par les investisseurs, par les promoteurs comme nous. Je ne cacherai pas que le commerce de détail vit des moments beaucoup plus difficiles. T'as le commerce en ligne là, qui affecte les différents retailers. T'as le manque de main-d'œuvre aussi qui va affecter les opérations là, des différents commerçants. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que le commerce de détail est un petit peu moins performant et devient un produit un peu moins recherché par les investisseurs. Je pourrais ajouter aussi le fait que la tendance en est beaucoup à diminuer la superficie des différents locaux. Les locataires ont beaucoup plus de la misère à se payer un gros inventaire, du gros pied carré, du loyer additionnel, des gros frais d'opération, beaucoup d'employés sur le plancher. Donc, tous ces ingrédients-là ensemble font que la recette, peut-être que le gâteau lève un petit peu moins bien qu'il levait dans le passé. Ceci dit, nous, dans notre portefeuille, on n'est pas des propriétaires avec des centres d'achat de 1,2, 1,3 millions de pieds carrés. Je dirais que le plus gros qu'on a tourne autour de 170 000 pieds carrés. Qu'est-ce qu'on essaie? C'est vraiment d'avoir un mix de locataires, de services et de commerces de proximité. Donc, que ce soit marché d'alimentation, pharmacie, banque, institutions financières, Dollarama, qui est rendu un joueur aujourd'hui, inévitable dans tous nos centres d'achat. On a, je crois, 17 Dollarama dans notre portefeuille aujourd'hui. Puis à travers de ces grandes bannières-là, qui sont des bannières sûres, on va l'intégrer certains locataires qui sont beaucoup plus locaux, des gens du coin, du service de proximité pour les gens. Puis quand on va faire des projets plus importants à la ville, on va pas aller se battre contre les grandes bannières, des grands centres d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va redévelopper nos centres d'achat en rajoutant des usages différents pour être en mesure que le centre puisse continuer à vivre qu'un achalandage constant. Mmh. Comme qu'on a fait à Cap-Rouge, Mike Cap-Rouge, on avait un centre d'achat, 60% de vacances. On a démoli une grande partie, la grande partie qui était vacante, les espaces communs. On avait 12% d'espaces communs. On aurait fait un strip commercial. On est passé de 12 à 1% d'espaces communs. On a pris nos locataires qui étaient moins performants. On les a libérés de leur beau. On a pris les plus performants, on les a remis en strip commercial. On a vendu une portion du terrain à Chartwell Batimo, qui ont construit une résidence de personnes âgées de 364 portes, qui est venue directement se coller à même le centre d'achat. Fait qu'on est passé d'un centre d'achat, je dirais, de catégorie C, dans un secteur en demande, à une propriété en multi-usage de catégorie A. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Créativité.
Moi, c'est ça, j'allais.
Transformer l'usuel en exceptionnel.
Le mot créativité me frappait, là. T'as volé mon punch.
C'est que ça nous permet aussi de notre côté, tu sais, d'attaquer des dossiers de manière différente parce qu'on est capable, en maîtrisant les différents usages, on est capable de regarder différentes possibilités quand on analyse un site. Fait que ça, c'est un super bon exemple. Puis, tu sais, je continuerai un peu sur le marché, tu sais, les centres commerciaux. Il y a plusieurs personnes parlent de vente en ligne, etc. Mais quand on regarde les chiffres, on voit pas... c'est une partie de la réponse, mais on voit vraiment un changement dans le comportement des consommateurs. Fait que ça, c'est un aspect qu'on surveille beaucoup. Mais on voit, nous autres, qu'il y a eu une espèce de... En partie, un transfert vers l'industriel. Il y a une grande demande, puis ça dicte un peu aussi pourquoi là, les investisseurs se sont tournés vers ce produit-là. Quand j'ai commencé, moi, en 2012, l'industriel était relativement bon marché. Les loyers très, très bas. C'était pas un produit qui était tant que ça recherché par les investisseurs. Puis là, en quelques années, ça l'a viré de bord bout pour bout. Beaucoup plus de demandes. Quand on regarde un peu les statistiques, c'est des loyers qui sont en dessous du coût économique de construction aussi. Fait que il y a eu un certain rattrapage dans le marché industriel. Fait que nous, on garde les yeux ouverts sur ces opportunités-là. On a un partenariat, entre autres, avec Fiera Properties, là, qui a acheté plusieurs propriétés à Québec, dont dans l'industriel. Fait qu'on est leur gestionnaire désigné là, pour la région de Québec. Fait que si c'est pas pour nous, parce qu'on en a quelques-unes de propriétés industrielles, puis on est intéressé encore à en faire, on est spécialisé entre autres dans le build-to-suit, fait qu'on est capable d'accompagner les locataires dans cette offre-là. Si c'est pas pour nous, ben Fiera aussi regarde pour des propriétés d'ampleur, fait qu'on est capable de gérer là, pour ces joueurs-là.
Un produit populaire comme l'industriel amène beaucoup de joueurs de l'extérieur du marché de Québec, partout au Canada, à bider sur les projets. Donc, encore une fois, ça a un impact, là, une compression, encore une fois, sur les taux de capitalisation. Donc, ça devient de plus en plus dur pour des joueurs comme nous d'être en mesure d'acheter ces propriétés-là parce qu'ils deviennent très, très chers. T'sais. Donc, de là, nous, l'importance de s'associer avec ces joueurs-là pour devenir leur gestionnaire de tous les projets qu'ils vont faire à Québec. Donc, c'est une stratégie qui est différente. Quand on n'est pas capable de l'acheter, on s'associe avec les grands pour être en mesure de développer avec eux autres.
Mais vous prenez une certaine expertise qui probablement un jour vous servira vous-même à faire des acquisitions. Fait que, tu sais,
ça
va les deux bords.
Ouais, leurs oreilles, on fait les inspections pour eux, on négocie les différents baux pour eux. Donc on connaît les propriétés par cœur, mais on n'est juste pas les propriétaires.
Mais eux, historiquement, ont toujours ce type de partenariat-là ou c'est parce que vous, ils vous avez dans la main pour Québec ou dans le fond, ils font jamais la gestion de leur propre industriel?
Ben, entre autres, ils sont toujours par partenariat. Okay. Mais il faut reculer aussi une couple d'années. Il y a beaucoup de joueurs de l'extérieur de Toronto qui ont acheté massivement à Québec ou dans d'autres marchés, même Montréal. Puis, ils se sont rendus compte qu'il y a une certaine culture différente au Québec. Là. En partant, il y a la langue qui est différente. Le code civil qui est différent. Donc, il y a toutes sortes de choses. Tout est différent. Fait que eux se sont rendus compte au fil du temps qu'il y en a quelques-uns qui se sont plantés dans le marché de Québec. Donc, ils ont vu que pour bien réussir ici, ça te prend un joueur local. Mm-hmm. C'est une formule qui, nous, de notre côté, ça fait notre affaire. Du côté du partenaire, ben, ça s'assure d'avoir des yeux dans le marché. T'sais, on est connecté, on sait ce qui se passe. Fait que les autres, c'est important. On est capable de parler de nouvelles constructions. Ça va être quoi la compétition? Qu'est-ce qui est à surveiller? Les potentiels de locataires. Fait que on a, tu sais, on parlait de partenariat gagnant-gagnant tantôt, mais c'en est un super bon exemple.
Dans un projet stabilisé, donc qui est déjà loué, qui roule depuis un certain nombre d'années, l'investisseur ne va pas nécessairement nous obliger à être là, nous, en équité. Mais ceci dit, dans un projet en développement qu'on fait, comme l'UP qu'on fait dans le Bourgneuf, ben, l'investisseur va nous demander que nous, on mette notre propre argent pour s'assurer qu'on est là, qu'on travaille fort, qu'on va être là jusqu'à ce que l'immeuble soit stabilisé. Donc, dépendamment du type de deal qu'on fait, ben, c'est là que les règles du jeu vont changer.
Puis là, on parlait du marché en général, le multi-résidentiel, justement, ça, c'est l'affaire. C'est vers là pas mal que vous avez choisi de prendre un peu un tournant dans les dernières années. Qu'est-ce que vous avez vu dans vos lunettes?
Dans le multi-résidentiel, c'est une super bonne question. Dans le fond, c'est nous autres, ça a commencé avec une opportunité d'un site, qui est l'ancien cinéparc à Saint-Nicolas. Ouais. Donc, c'est un terrain pour lequel on avait une option d'achat en vigueur depuis des années, qu'André avait réussi à signer à l'époque. On a réalisé cette option-là en 2012, un peu c'est un drôle d'hasard, parce qu'on s'en allait vendre l'option d'achat, puis finalement, le vendeur n'a pas saisi l'opportunité, fait qu'on a pris on a pris la balle au bon. Puis moi, il faut se remettre en perspective, je vous ai dit tantôt, je suis arrivé en septembre 2012, on a acheté le terrain en octobre. Donc, je venais toujours d'arriver, François n'était pas encore là, mais on a réussi à convaincre André à l'époque avec la gang qui était en place de au moins sécuriser le site, puis de dire, regarde, on va développer avec la ville le protocole d'entente, les rues, etc., les différentes ententes pour au moins lotir les lots, puis vendre ça à des joueurs qui font du multi, qui sont déjà actifs dans le marché, dont plusieurs ici là, sur la rive sud. Finalement, en cours de route, tout ce qu'on travaillait le dossier, François est arrivé, puis on a vu une opportunité, un changement de comportement dans le marché. Puis on s'est dit, bien, on fait du premier bloc. Fait qu'on on a lancé le premier 63 logements. Avec un produit assez diversifié, on avait du studio jusqu'aux 3 chambres, jusqu'aux 5,5. Puis ça a été une réponse de marché exceptionnelle. T'sais, on a on avait un beau produit neuf dans un secteur qu'il n'y en avait pas eu depuis des années. Les balcons surdimensionnés, stationnement intérieur. Donc on a vraiment frappé un type de clientèle qui est baby boomer dans ce marché-là. Fait qu'on a autour d'un 57-58 ans de moyenne d'âge présentement.
Bonne clientèle, le fun.
Super bonne clientèle.
Tu vas rester longtemps dans le bloc.
Ben oui, c'est des moyens.
Puis ça a renouvelé le stock un peu aussi. On voit beaucoup de construction dans le multi-résidentiel à Québec sur la rive sud. Puis ce qui explique ça, les gens qui sont moins proches du marché, encore hier, nous posaient la question, je comprends pas pourquoi il y a autant de nouveaux blocs. Mais je dis, c'est vraiment un déplacement de clientèle parce que tu as très peu d'immigration à Québec. C'est pas ça qui explique la croissance autant que Montréal. Mais on a vraiment un profil de clientèle, les baby boomers qui ont révolutionné chacun des marchés dans lesquels ils ont passé l'auto, n'importe quoi. Là, c'est le multi-résidentiel qui le vit. Le condo à Québec, moins à la mode. Donc, c'est le multi qui en a bénéficié. Fait qu'ils veulent un style de vie sans tracas. Pas d'entretien, pas de tracas financiers. Ton pire engagement, au pire, c'est un an de loyer. Mais si t'aimes pas la place, tu t'en vas. Si tu fais 6 mois dans le sud, l'hiver, t'as une flexibilité qui vient avec ça. Quelqu'un qui peut aller voir le concierge, il peut aller voir ton logement. T'as les services, t'as le stationnement intérieur, toutes sortes de choses.
Ta communauté, t'as les gens près de toi.
Ouais. Parce qu'on parle de résidentiel, mais en réalité, c'est toujours un peu de l'usage mixte, je pense, dans les projets que vous essayez d'incorporer et qui se fait de plus en plus, dans le sens qu'il y a toujours un petit peu de commercial au travers. Je ne sais pas si.
On va en rajouter pour Loge, mais Loge, c'est vraiment une vision. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé vraiment le premier projet de type station balnéaire à Québec. Donc, chacune des phases. Aujourd'hui, on a 3 phases de fait sur 8. On a environ 400 appartements. Toutes les phases sont interconnectées par des espaces communs intérieurs ou extérieurs. Donc, on a un terrain de 1,1 million de pieds carrés. On est entouré d'une forêt. On est à 3 minutes du pont de Québec. On est à 1 minute en automobile de tout ce qui est supermarché, SAQ, institutions financières, restaurants. Puis, qu'est-ce qu'on veut créer? C'est vraiment encourager des gens à créer une communauté, à rester sur le site possible, à minimiser l'utilisation de l'automobile. Donc, on essaie d'offrir un maximum d'activités et de services sur le site ou à proximité du site. Un des points forts au Loge, c'est que vous avez l'impression vraiment de vivre en campagne. On est entouré de forêt, on a des balcons qui vont jusqu'à 600 pieds carrés. Des balcons de 600 pieds carrés, là, c'est plus gros que deux studios mis ensemble au centre-ville de Québec. Donc, tous ces éléments-là ont fait que Loge est un succès aujourd'hui et que pour la balance de développement là, qu'on va faire d'ici la fin 2026, mais ça va continuer à être aussi performant. On a des bons locataires, puis c'est nos meilleurs ambassadeurs. Ils aiment tellement le projet, ils aiment tellement la marque, ils aiment tellement l'environnement.
Qui amènent leurs amis.
Que c'est eux qui amènent leurs amis et leur famille.
Puis, une des choses qui est vraiment importante,
importante puis drôle de qu'est-ce que vous avez dit. Hier, j'ai rencontré une dame qui me dit, ben écoute, elle dit, moi, ma maison, elle dit, j'ai un attachement particulier à la maison parce qu'elle dit, je suis née dans la maison. Puis elle dit, ça fait 68 ans là, que j'habite ici, que la maison m'appartient, etc. Puis elle dit, je m'en vais en location. Puis moi, qu'est-ce que je me recherche? Elle dit, tu sais, c'est un milieu social. Puis, tu sais, on a une évolution aussi de notre vie sociale, tu sais, au secondaire, au cégep, on a une vie sociale qui est extrêmement puissante. Après ça vient la vie de couple, les enfants, qui fait en sorte qu'on va...
Tranquille. Pas seul ici, là. Pas seul que c'est tranquille. Là.
On va... Ouais, puis, tu sais, j'ai l'occasion de pouvoir travailler beaucoup malgré ma situation familiale, mais ça fait en sorte qu'on va maintenir des relations sociales quand même plus restreintes le moment où ce qu'on va avoir de jeunes enfants, puis par la suite, quand les enfants vont devenir plus autonomes, un peu plus vieux, ben on ressent qu'il va avoir un engouement social, tu sais, le 40, 45, 50 ans, oups, là, tu sais, on est à l'aise financièrement, oups, on réaugmente notre réseau d'amis, mais quand on arrive un peu retraité, semi-retraité, ben, on n'a plus le même réseau, fait que les enfants sont partis, on ne voit plus les enfants aussi régulièrement, etc. Le réseau social devient vraiment important, puis d'avoir une vision de station balnéaire, d'offrir des services puis une vie sociale aux bébés-boomers. Moi, je pense que c'est un des points qu'il faut toucher le plus régulièrement, puis leur offrir des services où ils vont pouvoir réseauter ensemble, non pas sur les réseaux sociaux, mais en personne, parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Là.
Puis, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est qu'on est très à l'écoute de notre clientèle. Donc, on a fait des modifications importantes de la phase 1 à la phase 2, de la phase 2 à la phase 3. On a racheté des espaces communs que les gens nous demandaient. On a fait des modifications dans les finis pour être en mesure de vraiment rejoindre les attentes de qu'est-ce que nos clients voulaient. On fait des focus groups, on leur pose des questions. Quand on fait une entente de location, on a vécu un certain questionnaire où est-ce que les gens doivent répondre. Donc, comme promoteur, on ne dit pas, bon, on fait un copier-coller d'une phase à l'autre. Ouais. Non, on s'adapte vraiment au marché. C'est un très bon client, comme tu disais, Kevin, tantôt, mais c'est un client qui est aussi très exigeant.
Ben oui.
Donc, c'est important que ça soit propre. Que quand tu lui promets que sa place de stationnement souterrain est à case 43, mais il faut que la case 43 soit disponible quand il va arriver.
Faut que tu lis. Puis, t'as pas le droit d'écrire 43 sur un autre case.
Tu peux pas tricher.
Tu peux pas tricher.
Mais ça suit vos standards.
C'est de faire l'immobilier différemment, c'est ce qu'on disait tantôt. T'sais, on a vu cette opportunité-là dans le marché, puis on s'est dit, regarde, on est capable de au lieu de faire des blocs traditionnels, on va leur donner un nouveau service qui est plus important. T'sais, comme un resort dans le sud, ben les gens aiment ça être là. Fait que nous, on sont très exigeants comme clientèle, d'un autre côté, ils sont très fidèles. Donc, c'est ce qu'on apprécie.
C'est une clientèle qu'on apprécie aussi parce qu'on sait que quand ils vont signer le bail, c'est des gens qui ont acheté une maison, qui ont élevé leurs enfants, puis l'ont gardé pendant 40 ans. C'est pas des gens qui sont dans une société de consommation où qu'à tous les 5 ans, ils vont désirer un changement de blonde, d'appartement, etc.
Ils font attention. Je dirais l'élément le plus important dans un gros propriétaire, dans un gros bloc comme ça, c'est que les gens font très, très, très attention au passage, leur appartement, les différents finis.
Ils sont fiers.
Ils ne veulent pas rien briser. Puis quand ils rentrent dans le lobby, ils veulent que ça soit beau puis que ça reste beau. Donc ça, c'est un plus pour nous autres. Là. Ça nous permet de mettre moins d'argent à rénovation parce que tout reste un petit peu plus au goût du jour, reste plus beau.
Tu sais, on parlait aussi parce qu'on parlait de cap rate, on parlait de rendement d'immeubles, autant au niveau des centres commerciaux, autant au niveau multirésidentiel neuf, qu'on n'atteint pas les mêmes cap rates que du marché de la revente aussi. Ouais. Des gars comme vous devez avoir, vous devez palper le marché économique international, national, local. Là. Vous devez vous tenir à jour partout de qu'est-ce qui se passe parce que ça peut avoir un impact futur quand même assez important sur l'ensemble de vos projets.
Effectivement, on est connecté au marché, on suit les transactions. T'sais, Québec, on n'a pas le marché le plus actif, il faut le dire. Hein. L'immeuble à bureau d'ampleur, on est dans les rares transactions, nous autres, qu'il y a eu en 2017 là, avec l'immeuble justement de l'édifice de Promutuel. Dans le multi-résidentiel, il y a Stéphane Huot qui en a transigé quelques-unes au fil du temps, mais des portefeuilles d'ampleur, il n'y en a pas eu beaucoup. Fait qu'on se tourne dans ce temps-là beaucoup vers Montréal ou en périphérie, voir un peu ce qui se passe. Les signaux sont super positifs, puis on est super contents, nous autres, de la performance du marché. Il y a eu, dans le multi-résidentiel, les taux de capitalisation sont hyper agressifs parce que la demande est là de la part des investisseurs. C'est un refuge, puis c'est un produit. Hein. On est dans les besoins primaires, c'est de se loger. Donc, on a quelque chose de super, super solide. Fait qu'on le voit, les investisseurs sont agressifs, puis ils veulent ce type de produit-là. industriel, on a vu un peu la même chose. C'est assez agressif ces temps-ci parce que pas, les parcs sont pleins un peu partout. Donc, il y a une certaine sécurité à long terme. Bureau, un petit peu plus difficile. On a vu là, un petit peu de hausse, là, mais ça reste quand même un bon produit. Il va y avoir toujours de l'appétit pour les immeubles neufs puis les immeubles de qualité. Centres commerciaux, c'était relativement stable. Là. C'est plus de le défi est plus de maintenir les loyers là, au fil du temps.
C'est un défi, non. Puis je pourrais rajouter à ce que tu dis, Kevin, c'est le fameux NTV là, que nos collègues du reste du Canada vont dire, c'est que tu as les marchés de Toronto, de Vancouver, de Montréal qui sont en boom actuellement en termes d'investissement. Montréal, ça fait 3-4 années là, que l'argent d'investisseurs, la balance du pays puis d'étrangers rentre dans la ville. On croit que...
Ça va déborder ici à Québec.
Donc les prochains, ça va être notre marché à nous. Des marchés similaires à celui de Québec là, ouais. Qui vont être en mesure d'attirer ces gens-là. Donc nous, on doit déjà faire des projets qui sont pour les acheteurs institutionnels. Donc quand on conçoit un projet, bien, c'est important d'y penser dans les aménagements qu'on va faire, dans la conception, dans la structure, dans l'architecture, de mettre vraiment là, des critères élevés pour être en mesure d'attirer un gros fonds de pension que lui, quand il l'achète, il l'achète en cash. Puis après ça, il va le garder pendant 40, pendant 50 ans. Donc c'est important de bien répondre à leurs critères à eux.
Puis on a du terrain ici à Québec, ouais. Sud Rive-Nord, pour accueillir plein de projets et plein d'investisseurs.
De l'importance d'avoir un beau réseau de transport structuré.
Oui. Bien, justement, tu sais, on
ça
parle.
Tu voulais pas parler politique.
Moi, je suis pauvre, ça me fait plaisir d'en parler. Je pense que ça va nous mener à un prochain step de développement dans la ville.
Mais tu sais, c'est un peu ça aussi, tu sais, en étant directement dans ça, parlons-en. Selon vous, c'est quoi les plus grands impacts que la ville de Québec ou la région de Québec peuvent subir dans les prochaines années? T'sais, est-ce qu'il faut stopper l'étalement urbain? Faut-il avoir un troisième lien? C'est quoi qu'il faut faire pour être en mesure de garder une belle économie autant sur la rive sud que la rive nord?
Mais moi, je crois que oui, il faut vraiment stopper l'étalement urbain. Là. C'est des coûts qui sont astronomiques pour les villes. Déneiger la récolte de déchets, l'entretien des rues, des parcs, des écoles, du transport scolaire, des aqueducs, ça n'a pas de sens qu'on continue à dépenser autant d'argent pour être en mesure d'entretenir ces services-là, alors qu'on pourrait se concentrer beaucoup plus en milieu urbain pour être en mesure d'offrir beaucoup plus de services, de diminuer nos temps de transport, d'augmenter l'utilisation du transport en commun, de minimiser l'utilisation du véhicule, de marcher plus. Donc ça, dans toutes les grandes villes du monde, là, le développement s'est fait par stopper l'étalement. Donc ça, je pense que c'est un des premiers critères qui est en importance. Puis, pour la ville.
Pour une question très personnelle par rapport à moi, au niveau d'étalement urbain, tu sais, on a quand même une région Québec-Lévis, qui peut représenter un peu la superficie de Boston. Par contre, tu sais, à Boston, on va avoir la population de la province de Québec versus ouais. que là, nous, on se retrouve avec 10 fois moins de personnes. Comment qu'on peut faire pour réussir à venir densifier autant, tu sais, dans les centres versus...
Mais c'est une roue, hein, tu sais. Ouais. Donc, si on est en mesure de densifier avec un transport en commun efficace, on va attirer des gens qui sont pas nécessairement en mesure de se payer un véhicule, de rester loin, qui vont vivre dans des pôles qui sont plus densifiés, qui vont travailler près de l'emplacement où est-ce qu'ils vivent. Donc, à mesure qu'on va se développer de cette manière-là, c'est comme ça qu'on va attirer des gens, des immigrants de l'extérieur. Actuellement, quand tu viens vivre à Québec, à Lévis, ben, t'as quasiment pas le choix d'avoir une automobile, d'avoir un terrain, de vivre plus loin. Donc, c'est des dépenses qui peuvent être astronomiques pour quelqu'un qui arrive ici et qui a pas nécessairement rien. Donc, je pense que une fois qu'on va changer un peu la manière de faire les choses, la perception des gens, des valeurs qui sont imprégnées là, dans les résidents du coin depuis des années, mais c'est là qu'on va avoir un impact positif, qu'on va se mettre à attirer vraiment une clientèle différente. Le futur de la ville va passer par une immigration. C'est important. Nous, on a plusieurs restaurants, on a plusieurs magasins dans notre portefeuille. On voit nos locataires. La grosse problématique qu'on a actuellement, c'est qu'ils sont pas capables de recruter des gens pour venir travailler. On est capable d'en faire du développement. Il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est que les gens ne peuvent pas venir travailler pour être en mesure d'opérer ces restaurants-là et ces magasins-là. Donc, ça passe par l'immigration.
Il faut prendre exemple aussi sur d'autres villes qui ont passé là avant nous. T'sais, on a eu la chance exceptionnelle, je dirais, de visiter la ville de Copenhague en mars dernier, qui est très similaire à Québec là, en termes de bassin de population, en termes de dimension, à la limite même en termes de climat. Puis, on regardait, là, après notre voyage, quelques facteurs clés qui fait la réussite de Copenhague. Là. Eux commencent, la roue, ça commence par le réseau structurant. Donc, eux autres, c'est un tramway simili-métro là, qui utilise. Fait que quand ils veulent développer un nouveau secteur, la ligne...
Ils l'envoient dans le champ.
L'envoient dans le champ. Là,
c'est pas
pas,
la ligne dans le champ.
Il pousse, il n'y a pas de problème, il n'y avait rien autour. Ça s'est développé, le résidentiel s'est développé, le bureau s'est développé, le commercial s'est développé. Fait que ça, ça a été un élément clé. Fait que tu sais, tu es actif, donc tu es actif, tu attires du monde de l'externe. Puis un autre élément, c'est l'entrée politique. Eux ont fait un choix de société il y a quelques années. Ils parlent tout le danois très, très bien, une langue qui est qu'eux seuls maîtrisent. C'est ce qu'ils ont fait comme choix, par contre, c'est que tous les Danois parlent aussi l'anglais. Ils apprennent l'anglais à l'école. Donc, quelqu'un qui arrive là-bas de l'Irlande, qu'on a croisé, de Londres, peu importe ailleurs dans le monde, à partir du moment que tu parles l'anglais, t'es fonctionnel, tu gardes un emploi à Copenhague. Fait que il y a un choix de société qui a été faite, à la fois par la densification, le transport, puis par certaines mesures pour rendre... C'est pas juste de demander aux autres de s'adapter à nous, mais de peut-être s'adapter aux autres.
Ouais, pour mondialiser un peu.
Puis nous, on va faire des projets qui vont être en mesure de bien d'accueillir ces gens-là. Ouais. Donc, on veut pas faire des ghettos ou des secteurs de la ville parce qu'un quartier X, un autre quartier Y, mais comment qu'on fait pour que tous ces gens-là se mêlent là ensemble, qu'on ait une diversité culturelle importante, qu'on soit en mesure de vraiment changer le visage de la ville. C'est un enjeu important, puis on y croit beaucoup.
Puis François, tu disais qu'il y avait deux autres choses qui étaient importantes aussi. Tu sais, le jour où ce qu'on allait être en mesure de pouvoir se connecter sur Montréal puis devenir une banlieue de Montréal, ça va changer considérablement l'image de Québec puis le développement de Québec, assurément. Puis je pense que l'autre chose que tu disais aussi, c'était de casser un peu l'image de Québec, qu'on est une petite clique puis que, tu sais...
Exactement. Moi, j'ai resté 10 ans à Montréal. Ça fait maintenant 5 ans que j'étais à Québec. Puis, tu sais, la perception des gens à l'externe, c'est que Québec, c'est une clique. T'sais. Puis c'est difficile de rentrer dans cette clique-là. C'est blanc, c'est francophone, c'est des gens qui
tiennent.
Puis c'est homogène. C'est merveilleux. Sérieusement, je suis arrivé ici, puis moi, je me suis senti super bien accueilli, puis je me suis fait plein d'amis assez rapidement. Mais je prends une famille qui est d'origine étrangère, différente, qui parle pas très bien français, qui est pas trop habituée avec la neige, qui a pas vraiment déjà une relation de base avec les gens ici. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile là, de rentrer dans le réseau de la ville de Québec ou dans la communauté de la ville de Québec, là, de la même manière que nous autres. Là. Donc ça, on a un travail à faire. Je pense que les villes le savent déjà très, très bien. T'sais, la ville de Québec fait déjà beaucoup des efforts, des campagnes auprès là, de la clientèle étrangère pour être en mesure de les attirer ici. Québec, c'est une super belle place pour vivre. Donc, je crois qu'il y a un potentiel sécuritaire. C'est très, très, très sécuritaire d'attirer ces gens-là.
Le niveau de criminalité ici à Québec est quand même très faible. Puis, est-ce que ça se peut que dans ce cas-là, une des raisons pourquoi que les projets ne lèvent pas aussi rapidement ou facilement avec tous les projets structurants, ça soit une mauvaise compréhension de l'ensemble du projet? Tu sais, les gens, ils voient juste ça comme une dépense, comme de quoi que c'est un train, comme un... Tu sais, ils ont
on
pas...
On aime
une...
ça débattre aussi, là.
Hein?
On aime ça débattre aussi.
Ouais,
ça
aussi,
serait
aussi
trop facile si on réglait ça vite. C'est un sport, là.
Ben oui, c'est un sport.
Mais tu sais, il faut débattre, mais à un moment donné, il faut qu'on bouge, qu'on fasse un move. Ouais. Est-ce que ça va être le move le plus intelligent qu'on va faire? On le saura bien dans 15-20 ans.
Toujours moyen de second-guesser après.
Mais si on se pose toujours la question, je devrais-tu pas, on bouge, on action, tranche. On bouge, puis la nature a horreur du vide, donc il va se passer quelque chose.
Ouais. Ça va s'adapter.
Ça va s'adapter, puis ça va être positif.
C'est clair. Mm. Puis, tu parlais tantôt de la densification. Les villes, je pense, aussi donnent déjà le signal. Québec-Lévis, depuis une couple d'années, on en voit beaucoup de projets qui lèvent de grosses densifications. Là. Fait que ça s'en va vers là aussi, là, dans le sens que tout n'est pas fait, mais il y a des premiers pas qui vont vers là. Vous, justement, vous développez le gros projet du UP, mais en même temps, moi, je vois dans l'actualité dernièrement, le Mosaïque. Je vois un gros projet à Saint-Nicolas, pas loin de ce que tu es, Kevin. Je vois, je pense, Synchro qui en fait un autre en ville. Tu sais, je veux dire, c'est fort. Là. On disait que le marché multirésidentiel, il est bon, mais la ville donne son aval aussi pour que
ça se densifie.
Ouais, c'est ça.
La ville, elle donne son aval. Je te dirais qu'il y a deux autres enjeux là, qui sont importants là, pour le développement, la densification. Le premier, c'est important d'éduquer la population. T'sais, c'est toujours pas dans ma cour. Mais maintenant, on n'aura pas le choix de développer des propriétés ou des centres d'achat qui sont dans les quartiers résidentiels qui ne fonctionnent plus. Donc, c'est par là que le développement va passer, puis la densification va passer. Puis là, ben, ça va être des modifications de zonage. C'est certain que la ville discute continuellement avec les promoteurs, se promène partout sur la planète, connaissent bien les enjeux, connaissent les coûts aussi de l'étalement urbain. Donc, les gens ne sont pas nécessairement... ils connaissent pas vraiment nécessairement ça. Fait que je les comprends d'avoir peur, puis de se mettre aux barricades, puis de monter contre la ville, là, ou contre les projets d'envergure qu'on fait pour densifier la ville. Donc, ça va être une éducation qui va être importante à faire auprès des gens dans les prochaines années pour leur dire, écoutez, on fait pas ça pour votre bien. Au contraire, on fait ça pour améliorer le sort de la société dans le futur.
Ben, écoute, on écouterait votre vision du développement de la ville pendant plusieurs minutes. On est encore obligé d'aller en pause. Ça va vraiment très vite.
C'est JMD.
La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
On est de retour à la bulle immobilière avec François Pelchat, Kevin Lachance, des pros, des passionnés chez ImmoStar. Les gars, on a parlé de marché, on a parlé de vos de la business, de où ce que vous étiez, c'est quoi les différents marchés, mais j'aimerais ça qu'on aille plus approfondi dans vos différents projets que vous avez déjà réalisés, des projets que vous avez en cours, ou même d'autres projets futurs, si jamais on a un peu de temps, là, des scoops là, sur qu'est-ce qui peut s'en venir. Vous disiez aussi en premier plan que vous aimiez ça être les premiers de la parade, là, d'amener des nouveaux concepts, etc. Là, vous avez parlé de votre immeublé qui est une certification.
Ouais.
Puis c'est quoi les prochains projets ou les prochaines certifications que vous aimeriez mettre en place?
J'en ai parlé. La prochaine, c'est une certification WELL. Certification WELL qui est basée sur le confort, le bien-être et la santé de l'occupant. Qui est basé sur 10 critères qui ont été établis. Là, j'ai amené mes notes pour pas vous dire n'importe quoi. Là. Ça existe depuis 2014. Ça a été développé par l'International WELL Building Institute aux États-Unis. C'est des chercheurs, des scientifiques, des médecins qui sont rendus compte que nos intérieurs, nos environnements intérieurs étaient 2 à 5 fois plus toxiques qu'à l'extérieur. C'est normal, on est encloisonné, les fenêtres sont fermées, les systèmes d'air. Donc, comment qu'on fait pour améliorer la santé et le bien-être des occupants? Donc, ils ont développé 10 catégories qu'on doit mettre en application dans la conception, dans l'exécution, dans la gestion de nos différents immeubles. C'est des catégories, c'est l'air, c'est l'eau, la nutrition, la lumière, le mouvement, le confort thermique, le matériau, l'esprit et la communauté. Par exemple, je peux vous donner 2-3 exemples assez simples de ça, les cages d'escalier. Les cages d'escalier sont sous-utilisées dans un immeuble normal. Donc, comment qu'on fait pour les rendre agréables que les gens puissent les utiliser? On va racheter des éléments de biophilie. Donc, il va peut-être avoir des plantes. On va racheter de la musique. Donc, on va avoir de la musique dans les escaliers. On va racheter des couleurs. Au lieu d'avoir des cages d'escalier ternes, gris ou beige, donc on va racheter des différents paliers de couleurs. On peut mettre des exercices à faire. Donc, vous êtes au niveau rez-de-chaussée, mais vous pouvez monter directement sur le bout des pieds, faire des squats, justement pour encourager les gens à l'utiliser. Par exemple, nutrition, on va faire un potager communautaire, on va organiser des activités de cuisine, on va laisser des livres de cuisine traîner dans la bibliothèque, on va envoyer à tous les mois par newsletter à nos résidents, mais des conseils nutrition. On est au mois de novembre. Présentement, c'est la courge qui est l'aliment du mois. Mais mangez-en pour telle raison. Voici des recettes qu'on peut vous donner pour être en mesure de bien exploiter la courge. Sur l'eau, par exemple, on va mettre des distributeurs d'eau présents un peu plus partout dans l'immeuble pour que les gens puissent remplir leurs gourdes, bien s'hydrater. Les matériaux, ils vont être choisis, beaucoup de bois, beaucoup d'éléments qui sont un peu plus chaleureux, que quand tu te mets en contact avec les matériaux, ben, tu as une texture, tu es capable de ressentir l'énergie. Fait que tous ces éléments-là ensemble vont faire que quand tu vas vivre dans le projet, ben, tu vas te sentir bien.
Wow!
C'est où qu'on signe?
C'est le premier projet à Québec, là, c'est important de le dire, parce que le premier projet à Montréal s'appelle Humanity, qui est un projet en usage mixte qui est fait par Cogir. Vous pourrez aller voir sur le site web. Puis nous, ben, à force de se promener dans les différents projets, on s'est dit comment on fait pour faire les choses de manière différente. On s'est dit on va faire le premier projet WELL à Québec. Puis on travaille fort avec notre équipe de professionnels pour être en mesure d'obtenir cette certification.
Ça va être pour le projet
LEUP.
LEUP sur le Bourgneuf.
Qui se trouve à être un projet de 13 étages, 187 appartements locatifs avec beaucoup d'espace commun. Okay. Directement sur le côté du parc de l'escarpement.
Voisin de l'immeuble où vous êtes.
La phase numéro 1, LEED A. Ouais. Exactement.
Okay.
Donc,
puis est-ce que, dans le fond, la certification WELL, je pense que c'est supporté un peu comme par la même communauté que la certification LEED, là,
ouais,
le même institut.
Exactement.
Est-ce que ça oblige aussi qu'il y ait une certaine santé du bâtiment ou c'est vraiment focus 100% sur l'occupant?
Ça se base beaucoup sur la certification LEED aussi. Donc, c'est toutes les bonnes pratiques du LEED vont te mener à la certification WELL. Ouais.
Fait que c'est un plus, un bonus par-dessus.
Fait que contrairement, au-delà du building, on y va aussi avec l'occupant.
Ouais, ouais, c'est ça.
Puis contrairement au LEED, le WELL, c'est la certification. Si tu rencontres pas les résultats, mais tu peux la perdre. Donc, à chaque 3 ans, tu dois te requalifier pour être en mesure de garder ta certification WELL dans l'immeuble. Il y a vraiment quelqu'un de l'Institut américain qui vient aux 3 ans, qui fait des visites, qui pose des questions à tes occupants, qui fait des vérifications sur ton immeuble, tes systèmes d'air, tes systèmes d'eau pour être certain que tu atteins vraiment les critères qui sont exigés par WELL.
Fait que tu peux pas mettre la poudre aux yeux au début, puis après ça, laisser tout tomber tes initiatives.
Mais tu vas perdre.
Et tu sais, finalement, t'envoies la même infolette pendant les 35 prochaines années.
Manger à la courge à vie, c'est bon.
Pieds collés, c'est bon. C'est bon, Rodin.
Puis, fait que, tu sais, c'est au-delà de juste de construire une boîte, là. Tu sais, on s'entend, là. Ouais, vous êtes sur.
Des années-lumière de là, là.
Ah oui, des années-lumière de
ça. On a lancé le projet, tu sais, la semaine dernière, ouais. Du point de vue médiatique. On n'est pas encore en location. Puis, je vous dirais qu'on a eu plus d'une centaine de gens qui sont enregistrés pour nous demander de l'information, pour avoir les plans premiers, juste parce que le projet est vraiment différent de tout ce qui se fait dans la ville de Québec.
Puis est-ce qu'on va louer déjà sur plan? C'est où vous êtes dans la...
On va louer en février. Mi-février, on va avoir nos plans finaux. On va avoir le bureau de location qui va ouvrir. Okay. Donc, les gens qui veulent s'inscrire, vous pouvez aller sur leup.ca.
OK, mais c'est déjà, vous commencez déjà à creuser. Nous, on est venu
cette semaine. On commence à creuser, on faire les murs berlinois, puis on avance, okay. On avance dans l'exécution, ouais.
Ça va être une livraison, là, mai 2021, ouais, là, donc ouais. Pour la saison de location, si on veut, juillet 2021.
OK.
2021, là. Ouais, il faut que l'année 2020 passe aussi. Ouais,
ouais, okay. On est déjà là dans le carnet de commandes, nous autres. C'est du 2022 à mon temps.
C'est quand même impressionnant, les gars. Puis un des projets que ça fait longtemps que vous avez commencé, c'est le projet des loges à Saint-Nicolas avec l'ancien cinéparc. Ça a été un projet qui a été regardé de tout le monde. Hein. Ça a été critiqué à différents niveaux, des fois positivement, des fois négativement, puis tu sais, à savoir comment que ça allait fonctionner. Puis je pense que tout le monde a gardé un œil sur le terrain, puis le projet, comment que ça allait évoluer. Puis, tu sais, vous l'aviez dit aussi en pré-entrevue, votre objectif premier est de toujours faire des projets à l'avant-garde, mais vous voulez pas être les premiers non plus à se planter dans des projets. Puis, tu sais, pas hors de tout doute, mais vous avez fait un projet extraordinaire avec ça, qui lève super bien, que les résidents sont ultra contents. Puis, tu sais, parlez-nous de votre premier projet résidentiel.
Oui.
Tu sais, on avait parlé un peu comment que vous en avez fait l'acquisition, mais un coup que l'acquisition est là, les loges arrivent de quelle façon?
C'était vraiment, nous autres, une vision, tu sais, d'amener une corde de plus à notre arc. C'est vraiment ça l'objectif de départ, c'était de dire, bon, quand on analyse un site, comme on a parlé tantôt, qu'est-ce qu'on peut amener? T'sais, on a l'expertise commerciale, bureau, à la limite industrielle, etc. Là, le résidentiel, on l'avait pas. Donc, on s'est dit, si on se lance dans cette aventure-là, ben, on va mieux comprendre la réalité des joueurs de l'industrie du multirésidentiel. Puis, on va être capable, ben, si c'est pas nous qui le réalise, ben, mieux de le faire en partenariat dans certains sites. Finalement, ben, on s'est fait prendre un peu au jeu. On y a pris goût, puis on a levé le premier 63 unités en 2000. En fait, on l'a livré en 2016, puis on a eu une réception incroyable. Les études de marché, t'as raison, Jean-François, là-dessus. Les études de marché aussi étaient pas tous favorables, très conservatrices, le niveau de loyer, le type on veut de positionnement de marché qu'on devait atteindre. Puis finalement, bon, on est allé avec le flair, puis on a livré un building qu'on va appeler du moyen haut de gamme, fait que de qualité supérieure qui se faisait déjà à quelques endroits à Québec, mais très peu sur la rive sud. Donc on est arrivé avec ce produit-là, puis une très, très bonne réception dès le départ. Puis on a été surpris. Contrairement au marché traditionnel, c'est les grandes unités qui ont parti en premier. Fait que je pense après 2 semaines, tous nos 5,5 étaient partis. Les grands 4,5, même chose, toutes les unités de coin. Fait qu'on s'est rapidement, on a rapidement réalisé que la clientèle avait un appétit pour, puis avait une capacité de payer.
Pour les grands logements.
Pour les grands logements. Puis, je me rappelle notre première porte ouverte, on s'est fait prendre au jeu complètement. C'est un peu, sans dire désorganisé, on avait sous-estimé le nombre de personnes, pas assez de place dans le lobby du bloc. T'sais, on était en pleine construction, mais on a beaucoup de gens qui se présentent. Là, on rencontre notre clientèle pour la première fois. T'as bien beau faire les études de marché.
Parce qu'il faut le dire.
Oui, c'est ça. Vous comptez présent, sur 2 agents.
Ouais, on est présent. On en a une en fin de semaine, 23-24 novembre. Kevin et moi allons présents faire les visites avec les résidents.
Ça, j'allais dire. Le projet même, là. C'est ça. Le projet a peut-être levé parce que vous aviez 2 agents de location top.
Oui, c'est en ça. Ben, premières expertises, on a eu nos premières flammes là-dedans. Puis, c'est ça. On a rencontré notre clientèle pour la première fois. Un petit peu plus âgé qu'on anticipait. Alors, on voit aussi les voitures qui se stationnent dans la rue. Fait que, OK, c'est un niveau de revenu peut-être un petit peu plus élevé. Fait qu'on a eu une super bonne aventure avec le premier bloc. Puis ça nous a amené une expérience incroyable pour concevoir le deuxième. T'sais, le deuxième, on a pris ce qu'on a acquis dans le premier. T'sais, comme je disais, on était là dans les visites, on était là pour accueillir les gens à leur prise de possession au 1er juillet, comprendre d'où ils venaient, pourquoi ils avaient choisi le projet des loges, etc. Fait qu'on a écouté tous ces commentaires-là. On a bonifié le projet en phase 2, puis on, là, pour l'instant, on répète la formule phase 3, qui, elle, va être livrée en janvier 2020.
Tu pourrais peut-être dire l'ajustement que tu nous avais parlé en entrevue par rapport à tes étages, tes types de plafonds, qui n'est pas nécessairement une démarche habituelle.
Oui, c'est ça. C'est un bon point. On a, dans le jeu, en fait, quand on voulait sortir un peu du marché traditionnel, on a fait des plafonds en béton exposé à grandeur. Donc, c'est peut-être plus adapté à une clientèle un peu plus jeune, c'est plus look industriel. Puis, bon, on a eu une super bonne réception. En bout de ligne, il y a quelques locataires qui nous demandaient de peinturer les plafonds en blanc, changer le look, peut-être de mettre du gyps. Fait qu'on s'est dit, en phase 2, comment qu'on évite ce dilemme-là? Comment qu'on peut adresser...
Que les gens, ils choisissent un appartement immédiatement sans avoir de modification.
Ouais, c'est ça. Puis nous autres, on m'a donné des interventions, vous le savez, après, c'est plus coûteux que quand c'est planifié au départ. Fait qu'on est arrivé avec l'idée, là, sans dire révolutionnaire, une bonne idée. Ouais. C'est-à-dire, on va alterner les étages. Fait que l'étage de rez-de-chaussée et les
étages impairs. Vous avez fait un étage impair.
Exactement. Quelle flash, quand même.
On est allé dans
un mathématicien.
On a mélangé c'est numéro fondant. En cours de route, mais non, ça a été de mettre des étages finalement en béton exposé, puis d'alterner gyps, béton exposé, etc. Puis ça a fait en sorte qu'on suivait notre profil de locataire, mais on ne perdait pas le client. Bon. Quelqu'un voulait un 4,5 délocalisé de tel côté, ben finalement, il reste juste à choisir. Si tu veux finalement un béton gyps, ben va au deuxième étage, au 4, je l'ai pour toi.
Puis si je peux ajouter à ce que tu dis, Kevin, on a des espaces communs qui sont vraiment hors du commun. On a un parc central de 50 000 pieds carrés. Là, je viens pas, ça vient d'un brainstorming qui est fait autour là, d'un cinépark. Vous savez, c'est un ancien cinépark. Vous êtes des
problèmes. Oui, on le sait.
On était là.
Vous avez déjà écouté des films avec vos blondes d'abord, ouais. Certains. Loge, tu sais, vous êtes déjà allé voir un spectacle dans une loge au Centre Vidéotron, au Centre Bell. Qu'est-ce que tu as comme attribut dans une loge?
VIP. Ben,
t'es VIP, c'est moderne, t'es près de l'action, t'es insonorisé, t'as un service supérieur, t'en ressors, t'es comme, t'es le premier, t'es fier. Ouais. Tous ces éléments-là qu'on voulait remettre là, quand on a créé le projet loge. Fait que le nom vient de là. Puis dans nos espaces communs, je dirais que ce qu'on a de nouveau là, dans la phase 3, c'est qu'on fait une patinoire. On a une planète patinoire de 2000 pieds carrés là, qui va être en face de l'immeuble, là, okay. Aussi grande qu'à la place d'Youville. Pendant l'été, ça devient un bassin avec zone de relaxation où est-ce que les gens peuvent aller se mettre les deux pieds dedans, lire un livre. On fait une zone brassero. Donc, les gens aiment ça à leur maison, faire des feux de camp. Donc, comment qu'on va être en mesure de leur offrir ça ou là? Donc, on a fait un emplacement exprès avec des hamacs, des tables à pique-nique, des chaises, un gazebo, des lumières. Puis on a vraiment des fire pits au gaz là, où est-ce que les gens peuvent venir s'installer et gratter de la guitare. On a une piscine chauffée, on a deux salles d'exercice, on a une salle multifonction. On a fait une salle de jeu, donc avec table de pool, écran de télévision, table de blackjack, jeu d'or, espace coworking. Donc, on essaie vraiment là, d'aller mettre des espaces là, dans les phases là, qui sont différentes, qui attirent les gens, puis on voit que ça fonctionne. On était justement au loge, Kevin et moi, hier, puis en milieu d'après-midi, 2h d'après-midi, il y avait environ 30 personnes qui étaient en train de faire un tournoi de poker. Donc, dans la salle multifonctionnelle en après-midi. Fait que ça, quand on arrive pour voir ça, pour nous, c'est exceptionnel.
Ouais, c'est la communauté.
C'est la communauté se crée. Ils sont là, ils jouent ensemble, ils ont du plaisir, ça riait. Il y en a qui avaient une petite bière de cachet, c'était merveilleux.
Ouais, c'est ça. Vous êtes lousse là-dessus.
Moi, qu'est-ce que je trouve vraiment le plus cool avec notre émission, c'est qu'à toutes les fois que on a des invités, je vais tout le temps signer avec eux autres. Tu sais, c'est venu, j'ai signé avec eux autres.
C'est ça.
Fait que moi, ça me met dans le trouble sur plusieurs affaires. Mais c'est vraiment très cool. Puis la vision, on la ressent aussi. Vous parlez de vos projets, puis c'est vraiment très cool. Y a-t-il d'autres choses aussi qui s'en viennent sur Québec?
Ben moi, je dirais qu'on fait le projet Le Maguire sur l'avenue, qui est un projet de condo. Beaucoup plus d'auteur nature. Là. C'est un projet de 4 étages, 42 condos.
C'est le stationnement qui était adjacent au Starbucks.
Exactement. C'est le stationnement qui est directement au cœur de l'avenue, en face de notre ancien siège social, parce que nous, on était directement dans l'ancienne caisse des jardins. On vient de déménager en Le Bourgneuf.
Okay.
Donc, on a fait l'acquisition de ce terrain-là avec notre partenaire. Donc, on développe un projet de 42 condos. On fait un rez-de-chaussée commercial. Puis, on va quasiment plus que doubler l'espace de stationnement disponible actuellement. Donc, on
va vraiment. C'est vraiment très gros
enjeu
là-bas.
Sur le stationnement, vous allez créer plus de stationnement.
Plus de stationnement. Trois étages de stationnement
souterrain.
Exactement.
C'est un enjeu, dans le fond, c'est un appel d'offre de la ville. C'est la ville qui était propriétaire. Puis, il y avait un engagement de la part du promoteur à minimalement remettre le même nombre de cases de stationnement, sous forme de location. Mais fait que c'est une partie qu'on respecte, puis même on ajoute là, des stationnements qui vont être disponibles à la clientèle du secteur.
Okay. Ce projet-là, il est où dans le développement?
On va commencer à construire cet hiver. Donc, entre janvier et février, on va commencer à excaver là, 2020. C'est un projet qui va prendre environ un 18 à 20 mois là, de construction. Les projets de cette envergure-là, c'est toujours au moins 20 mois de construction.
Puis moi, quand tu me dis ça, un gars de construction, commencer en janvier, février, excaver, c'est quoi le choix? C'est juste un timing qui
non,
doit être celui-là?
Non, c'est,
dans le fond.
C'est vraiment prévu. Donc, on ne veut pas tomber en condition d'hiver pour monter la structure. Quand on excave l'hiver, techniquement, il n'y a pas de poussière. On minimise le bruit parce que les fenêtres sont fermées.
Oui.
Il y a un petit peu moins de circulation sur l'avenue Maguire en janvier-février. Donc, on est en mesure de moins nuire au commerce. Les camions peuvent se remplir beaucoup plus parce que le sol est gelé.
Oui.
Puis, techniquement, pendant qu'on excave, quand on va être prêt à monter la structure, on va arriver en mars avec le risque de conditions d'hiver est beaucoup moins élevé.
Okay.
Donc, toutes ces conditions-là fait...
Absorbe très bien les frais d'hiver, là, c'est-à-dire de chauffage et tout.
On économise un certain montant okay. en commençant. Là.
OK. Très cool.
Puis, tu sais, quand on a une vue globale d'un projet, là, c'est pas juste un plan. Là. Bon, on va construire notre maison, puis on va acheter nos plans sur Bonneville. Là. Il y a tout l'environnement externe qui prend en considération. Puis, c'est vraiment impressionnant comment que vous gérez vos projets.
Peut-être un petit scoop. Y a-t-il un autre petit projet?
On va annoncer quelque chose en début 2020. Il y en a certains okay. qui l'ont vu passer. Nous, on a fait l'acquisition de 16 maisons. Là. Ça fait un an. On va le célébrer. En fait, on le célèbre actuellement, si on peut dire. C'est le 22-23 novembre 2018. On a acheté les 16 maisons qui restaient sur le boulevard Laurier, là, face à Place de la Cité, entre Éclat, la résidence des personnes âgées et le CHUL. Fait que c'est sûr, c'était un prime spot. C'était convoité par beaucoup de promoteurs. Tout le monde l'a regardé. Personne ne l'avait acheté. Fait que c'est nous autres qui a mis la main dessus.
Comment on deal ça? 16 maisons? Non, mais juste de même, là, ça me vient comme ça.
Ça va faire juste une autre émission. Mais ouais. Non, c'est
parce
un...
C'est 16 transactions.
Oui, on a été chanceux. On a été approché par quelqu'un qui avait quand même assemblé un certain nombre là, de résidents en même temps.
Okay.
Bon, ça a commencé, c'était 16. Finalement, bon, il y en a peut-être 10-12 qui étaient plus solides. Puis c'est un peu le phénomène des balles de tennis. Là, tu en as 12 dans les bras, mais à chaque fois que tu te penches pour ramasser une nouvelle, t'en échappes une, t'en échappes deux. C'était un peu ce qui se passait. Fait que on a été le joueur qui a permis à ce que toutes les conditions se rencontrent. On a été super bien assisté là, par un courtier puis un autre intervenant dans la transaction. Puis la seule qu'on a complétée, si on veut, face à face, François et moi, c'est la dernière.
Okay.
Fait qu'on va s'en souvenir toute notre vie.
C'est là, un closing de salle à manger, ça?
Un closing de salle à manger avec un bon, jeune ça. Bébé de deux semaines dans les mains.
C'est les meilleurs, ça.
Fait que,
On a eu du fun.
On a eu du fun. Fait que c'était une super belle transaction. Encore là, deux bons partenaires dans ce projet-là. Là, deux partenaires, Claridge et Fiera Capital. Donc, on va annoncer des bonnes nouvelles là, en début d'année là, sur ce site-là.
C'est comment vous l'appelez? Parce que j'ai appris
le site. Le site s'appelle Îlot La Pointe. Au niveau de la ville, etc. Okay. Parce que c'est la rue La Pointe, c'était médiatisé. Notre nom de projet sera bien sûr.
Sois sans crainte qu'on va créer toute une marque.
On va créer autre chose.
C'était un gars de MMR quelque
chose. On va avoir une vie intéressante.
Ben oui.
Mais les gens qui passent dans le secteur peuvent le voir. La démolition des maisons a commencé la semaine dernière. Donc, ça va déjà changer le paysage dans les prochaines semaines.
Puis vous, les gars, au-delà d'être des passionnés puis des gars impliqués à 100 000 à l'heure dans l'immobilier, vous êtes impliqués aussi pour différentes fondations, différents organismes. On arrive à la fin de notre émission, fait qu'on va prendre le temps aussi d'appuyer les différentes fondations et organismes sur lesquels vous siégez ou que vous donnez votre bénévolat. Toi, Kevin, c'est avec quel organisme que tu fais affaire?
Oui, moi, je suis impliqué avec Centraide, fait que dans le programme de jeunes philanthropes émergents. Donc, c'est la deuxième année que je suis impliqué avec eux, fait que ça, pour aider la grande campagne, on a un bon succès. Puis, je dirais, depuis, ça fait 4 ans maintenant, je suis impliqué avec La Cellule, qui est une espèce de filiale, la relève en philanthropie de la Fondation du CHU de Québec. Je siège aussi au conseil d'administration là, du CHU depuis un peu plus d'un an. Peut-être lancer une invitation là, à vos auditeurs. On a un événement vraiment spécial là, le 23 janvier prochain, 23 janvier 2020. Terminal de croisière, coût de billet 135 $, c'est pour une bonne cause. On a remis 205 000 l'année passée. Ce qui est phénoménal avec La Cellule, c'est qu'on choisit à chaque année une cause à l'intérieur du CHU. Donc, il y a plusieurs causes qui nous sont proposées. Puis notre mission, c'est de choisir une cause orpheline. Fait que pas nécessairement les causes les plus sexy à l'intérieur du CHU. Cette année, c'est pour le cancer colorectal. Donc, on a une jeune équipe de médecins qui nous a approchés, puis on est tombé en amour avec la cause. Fait qu'on se démène là, pour ramasser des sous pour leur fournir un nouvel équipement là, qui va les aider dans leur à humaniser les soins pour leurs patients.
Puis toi, François?
Moi, je participe beaucoup avec la Fondation Michel Sarrazin, sur des différents cocktails, l'application pour le rebranding, l'agrandissement de leur maison, collecte de fonds, plusieurs événements pendant l'année. Donc, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours été un gars bien impliqué dans différentes fondations, là, avec Pierre Lavoie, avec la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Donc, on est chanceux, nous, d'être où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis on est reconnaissant envers la société puis la vie pour ça, puis c'est important pour nous là, de redonner aux gens qui ont malheureusement pas la même chance que nous. Donc, on essaie vraiment de s'impliquer le plus qu'on peut, donner le temps qui nous reste.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on en a...
Mais on peut impliquer la famille, je peux impliquer la famille dans ces démarches-là, mais c'est ça qui est le fun des fois aussi, c'est de relier un peu le professionnel puis le personnel au travers de ces...
Puis dans des activités là, comme ça aussi, ça devient une belle opportunité, une belle fenêtre d'amener nos familles, de réseauter avec nous aussi. Exact. Puis,
dans un autre cadre.
Ça permet de parler aussi de certains sujets. T'sais, l'année passée, notre cause, c'était les grands brûlés. J'ai deux jeunes garçons de 5 et 7 ans. C'est pas quelque chose qu'on aborde à chaque jour. Hein. Non, fait que de voir l'événement, la photo avec un grand brûlé, y a des questions qui se posent, mais on les éduque en même temps. Puis on peut les contaminer un peu. C'est positif.
Puis c'est vraiment positif de recontribuer aussi dans la société à différents organismes. Puis ça vaut réellement la peine. Les gars, ça fut un réel plaisir de vous recevoir ici en studio. La porte est ouverte pour... on n'est pas comme tout le monde en parle avec la petite carte de chouchou.
La petite carte de chouchou, mais sinon, vous en auriez une, clairement.
Puis les gars, vous êtes invités quand vous voulez à l'émission. Merci d'avoir partagé votre expérience, vos projets, de votre compagnie, votre vision. C'est une entreprise que je vais garder un œil très sérieusement sur qu'est-ce que vous faites comme projet, parce que c'est très inspirant qu'est-ce que vous faites. Un gros merci, les gars, d'avoir été présents.
Merci.
96.9 FM, the alternative radio. 4, 3, 2, are you
ready? Bienvenue aux capsules de KP Formation d'affaires avec Kevin Pépin. Kevin, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment qu'on réfléchit ou comment qu'on partage les profits.
Ouais, fait que moi j'ai décidé que j'allais prendre 80% des parts de la société et que toi Kevin tu vas avoir 15 puis Jeff tu vas avoir 5.
Parce que je suis un investisseur passif.
Parce que t'es simplement un courtier, Jeff.
Merci les gars.
Non, en fait c'est écoute c'est drôle, c'est caricaturisé dans le fond ce que je viens de dire, mais ultimement c'est souvent un enjeu qu'on a en partenaire. Donc comment est-ce qu'on partage les profits avec les investisseurs, ceux qui sont développeurs, ceux qui gèrent les opérations courantes. Donc c'est souvent une question qui est difficile à répondre. Et dans le fond, nous sur plateforme en ligne, on propose justement une manière de réfléchir cette répartition-là du profit.
Comment le pondérer?
Ouais, comment le pondérer? C'est sûr que la pondération, le pourcentage attribuable peut être vraiment discrétionnaire, mais ultimement, il y a une manière de le réfléchir. Il y a comme un step-by-step qu'on peut le réfléchir. Et la première question, c'est en fait, qui prend le plus gros risque en termes de capital? Donc, c'est triste à dire, mais je veux dire, c'est le montant qu'on investit, celui qui crache de l'argent, du capital, qui devrait avoir une part qui est plus prédominante.
Fait qu'on donne un exemple, on achète un 6 logements, 600 000, 150 000 de mise de fonds, on est 3 partenaires, je mets 100 000, vous donnez chacun 25 000. Fait que moi, je devrais avoir un plus gros rendement parce que ma mise de fonds est plus importante sur
le... Une plus grande part, du moins.
Ouais, exactement ça. Si on le regarde juste d'un point de vue risque capital, là, on va racheter d'autres risques et d'autres avantages, en fait, qu'un partenaire peut apporter. Mais admettons, on s'arrête juste à l'élément capital. Oui. Donc, c'est la manière la plus simple de le calculer. Tu mets plus d'argent, tu as plus de parts. Mais là, après ça, il y a d'autres choses qui viennent se complexifier.
Parfait. Allons-y avec les autres choses.
Deuxième chose. Donc, on y va. C'est vraiment par ordre, hein. On monte dans le fond. En fait, on descend en termes de priorité. Donc, le premier, c'est vraiment les risques de capital. Le deuxième, c'est les risques de caution. Donc, le risque de caution, c'est, OK, ben JF, Kevin, on est dans un deal ensemble, on cautionne tout le même prêt. Mais si on cautionne un prêt d'un million de dollars et que moi, j'ai 100 000 de valeur nette, toi, JF, t'as 800 000 de valeur nette, puis toi aussi, t'as 100 000 de valeur nette, qui, en réalité, prend le plus gros risque de caution?
C'est JF.
C'est JF. parce qu'on est solidaires ensemble. Donc JF ultimement, même si dans ce scénario-là on mettrait un tiers en termes de capital, tu vas quand même prendre plus de risques de caution, tu as une plus grosse valeur nette. Si ça plante ou quoi que ce soit, ben c'est toi qui vas être beaucoup plus au bat, tu as beaucoup plus à perdre et ultimement d'un point de vue bancaire, tu apportes plus de valeur parce que pour le banquier, c'est toi en réalité qui viens diminuer le risque. Donc, le risque de caution est très important à prendre en compte.
Puis, il est souvent mis de côté ou du moins pas abordé. Ou
il est presque jamais abordé.
Tu sais, c'est ça.
Exactement. On ne l'aborde pas.
Parce que la caution, on se dit, elle ne sera jamais appliquée. Donc, c'est quoi la valeur de ça?
Puis, le réflexe des gens aussi va être souvent, ben écoute, on est 50-50 dans le deal. Fait que, tu sais, on est à 50-50 tout le temps. Mais ça se peut que justement l'équité ou la valeur nette de quelqu'un va en prendre un plus grand risque par rapport à l'autre.
Là. Exactement. Puis d'ailleurs, si on peut l'appliquer à la pratique de notre propre expérience chez KP Management, on a déjà monté une structure dans laquelle que on attribuait des shares pour une caution. On attribuait des shares pour ensuite de ça la mise de fonds. Et on attribuait des shares pour quelqu'un qui allait faire le développement de tout le projet. Et admettons, je me réfère aux dernières années où est-ce qu'on avait vraiment beaucoup d'acquisitions, donc une grosse croissance. Les banques n'aiment pas ça. Simplement parce qu'ils sont là pour gérer du risque. Et la manière qu'on a faite pour pallier à ça, c'est que justement, on est allé chercher quelqu'un qui avait beaucoup de valeur nette, beaucoup de crédibilité, et on a monétisé des shares en fonction de ce qui cautionne les prêts.
Et cool. Puis, mettons, encore une fois, pour revenir à notre exemple, le 6 logements à 600 000, c'est quoi généralement la caution qui est demandée ou qu'est-ce qu'on demande dans un prêt standard à 75-25 comme ça?
Ben un prêt conventionnel, en fait, il n'y aura pas de ratio de pourcentage comme la CHL, admettons, qui demande un pourcentage sur le prêt qu'on demande en termes de valeur nette. Ça va être vraiment le crédit qui va analyser, en fait, la capacité de réinjection des emprunteurs et leur force financière, donc leur valeur nette ensemble. Mais ultimement, si vous avez le capital pour un projet, c'est un très, très gros projet qui dépasse largement vos compétences, c'est ce que vous avez déjà fait dans le passé et que vous avez vraiment pas beaucoup de valeur nette, donc vous avez très peu de garanties à donner, ben effectivement, ça se peut que ça bloque au financement. Ne pas sous-estimer la caution. On a déjà d'ailleurs fait d'autres types de projets d'envergure où est-ce que on réussissait à aller chercher des financements très, très agressifs parce que on arrivait à la table avec des partenaires qui avaient des très grosses valeurs nettes. Donc, la caution vaut cher.
On comprend que ça diminue le risque du banquier.
Exactement.
Donc,
ça.
Donc, il est prêt à s'avancer sur des conditions de prêt
plus favorables
plus
aussi.
Plus favorables, si on veut. Là.
Exactement.
Puis, est-ce que ça se peut aussi qu'au niveau de la gestion de l'immeuble ou la gestion de la business par la suite, s'il y a des gens qui viennent le prendre, vont avoir certaines shares aussi par rapport
yes.
à ça?
Yes. Donc, premier, risque de capital. Deuxième, risque de caution. Troisième, la gestion de l'actif. Et là, quand je parle de la gestion de l'actif, c'est pas de gérer les locataires. C'est de gérer l'entreprise. C'est de gérer la valeur. C'est gérer l'administration. Gérer la fiscalité. Donc, quelqu'un qui a vraiment une vue très, très macro sur tout ce qui se passe. Et ça a une très, très grosse valeur. Donc,
c'est plus intangible.
C'est très intangible. C'est un asset manager.
C'est que les deux premiers aspects de capital et de caution où là, on s'en...
Non, on rentre de plus en plus vers les compétences. Puis plus qu'on va descendre, plus qu'on va aller vers quelque chose qui est comparable au marché. C'est-à-dire qu'on peut trouver facilement sur le marché. Donc, ça vaut moins en termes de share, en termes de split share. Mais le gestionnaire d'actifs est vraiment important parce que c'est le maître d'œuvre. C'est lui qui va coordonner le capital, qui va coordonner justement ce que va gérer la relation d'affaires avec le banquier pour le financement, qui va ensuite de ça coordonner sur le terrain l'exécution du projet et tout ça. Et en finalité, l'analyse de tout ça. Donc, il va être le vase communicant, le chef d'orchestre de tout ça, oui.
Puis après ça, est-ce qu'il y a d'autres chairs qui pourraient s'ajouter à ça?
Oui, il y en a d'autres. Donc là, on a dit risque de capital, risque de caution, celui qui gère l'actif, la valeur. Et ensuite, on a le développeur, donc celui qui a vraiment la vision du projet.
L'inventeur fou,
celui qui voit les choses que les autres voient pas.
Ouais, c'est ça.
Donc, il va passer devant un terrain, il va voir une pancarte, il va analyser le zonage, il va dire, attends un peu, ici, je pourrais changer le zonage, je pourrais maximiser telle ou telle chose. Ou il va analyser le marché, puis il va voir des bâtiments avec des superficies de terrain qui permettraient de lotir, mettons, le terrain. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très focus sur développement business et qui a une vision, qui voit les choses, qui comprend le marché. Donc là encore, là ça a une valeur dans un partenariat.
Puis ça, c'est probablement lui qui est le plus dur de comparer au marché. Parce que ça se outsource pas ou ça
exactement
ça s'engage pas quelqu'un de l'extérieur nécessairement qui va venir dans ta business puis qui va
C'est très niché. C'est très niché parce que ça prend quelqu'un qui va comprendre plusieurs dimensions en fait liées à l'immobilier. Et effectivement, le développeur immobilier, celui qui a la vision, qui va exécuter ensuite de ça le projet, c'est pas donné à tous. Donc, ça prend vraiment des compétences qui sont multidisciplinaires.
Puis après ça, il y a d'autres chairs qui vont se rajouter avec...
Ouais, le dernier, c'est celui qui va faire la gestion des opérations. Donc celui-là, évidemment, vous comprendrez que plus qu'on descend, c'est-à-dire qu'on a débuté avec le risque de capital, clairement, on rémunère en share. Risque de caution, on rémunère en share. Gestionnaire d'actifs, on peut commencer à faire une rémunération en share et aussi en capital, donc payer comme un frais. Développeur, la même chose, mais gestionnaire des opérations, là, c'est vraiment plus un gestionnaire immobilier, par exemple. Donc, quelqu'un qui va exécuter sur le terrain, et là, à ce moment-là, c'est comparable sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut trouver plusieurs comparatifs. Donc là, à ce moment-là, d'être payé en share, ça devient, à mon sens, beaucoup plus compliqué. Là.
Ouais, c'est ça. Fait que comme tu viens gérer, par exemple, les opérations, on paierait, par exemple, une compagnie, pour pas le nommer parce qu'on l'a rencontré à notre émission Gestion M Côté, qui facture, par exemple, 5%. Ben, ce 5%-là, au lieu de le donner à une entreprise externe, c'est qu'on va le donner à la personne qui va gérer les opérations.
Exactement. Donc, on paiera pas en share parce que, ultimement, sur le marché, il y a plusieurs personnes qui offrent ce service-là. On peut le trouver, on peut le comparer. Alors que les risques de capital, de caution, gestion d'actifs, développeurs, c'est un petit peu plus dur, en fait, à trouver. Évidemment, un risque de capital et de caution étant les plus difficiles, mais plus qu'on se rapproche à « je peux trouver des comparables sur le marché qui peuvent exécuter en fait ce que j'ai de besoin. »
Qu'on va payer en capital.
Exactement. On va beaucoup plus les payer en frais, on va les payer en capital et non en share.
Puis comment qu'on gère la personne qui fait de la prospection parce qu'il dit « écoute les gars, vous auriez pas eu ce deal-là parce que c'est moi qui ai fait de la prospection. »
Ben là, c'est sûr qu'on peut...
Faire le développeur finalement.
Ouais, ça revient dans le fond dans le segment beaucoup plus développeur. On pourrait le payer en partie de share ou deal, mais tu sais, c'est parce que aussitôt que tu rajoutes des shares, tu rajoutes une composante administrative. Ça, les gens, en fond, ils la négligent. Donc là, faut la mettre dans les livres de minutes. Là, après ça, faut les déclarer à la banque. Là, quand il va avoir, si la personne s'est donné des droits de vote, puis que là, il va avoir des cautions à les mettre, même si c'est minoritaire, va falloir qu'elle signe. Donc, plus que tu vas dans les shares, plus que tu rentres dans une complexité administrative qui n'est pas à négliger. Donc, moi, c'est sûr que quelqu'un qui fait de la prospection et tout ça, j'irais beaucoup plus on paye en capital.
OK, parfait. Sur un deal trouvé, ça vaut pour nous environ 15 000 $ Fait que toi, tu auras 15 000 $
Encore, il y a des comparables sur le marché. Oups.
Exactement.
Il y a des gens qui le font puis qui le price. Fait que tu peux te fier à ça aussi.
Exactement ça. Puis tu sais, quelqu'un qui veut te vendre aussi un projet en te disant voici le potentiel du projet, mais tu sais, le projet, même s'il y a un potentiel, tant que le projet est pas réalisé.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.